Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau concept, ce nouveau format que j'ai envie de tester là, pour les racines de la créativité. Un truc, tu vois, extrêmement innovant, tu vois, extrêmement, comme disent les jeunes dans la Startup Nation, disruptif. Le concept s'appelle tout simplement « Bon alors, tu deviens quoi ?» Le truc, c'est juste d'aller interviewer des gens qui sont déjà passés dans mon podcast. Et pour inaugurer ce nouveau concept, j'ai réinvité Monsieur Pierre Dron. Bon alors, Monsieur Pierre Dron, comment ça va ?
Ça va bien, toujours bien.
Bah, nickel. Alors, pour les gens qui n'auraient eu le malheur, tu vois, de ne pas entendre la première interview, peux-tu te représenter rapidement ?
Alors, je ne sais pas trop comment je m'étais présenté. On avait fait l'épisode 8 ensemble de ton podcast. Et sinon, pour me présenter aujourd'hui, on est en septembre 2021. Je suis Pierre Dron, je suis éleveur de marques. Je produis aussi des films et je suis tout récemment l'auteur du livre Remarquable qui est sorti en librairie la semaine dernière.
Écoute, félicitations. En tant qu'auteur de livres, je sais à quel point écrire un livre, c'est chiant. Ça prend du temps. Ça peut être casse-couille, même si c'est génial. C'est une super expérience. Mais ouais, c'est casse-couille, en fait, l'écriture d'un livre. Donc, on va parler un peu de ça et puis on va peut-être aussi parler d'autres choses dont on avait déjà parlé il y a 2 ans, tu vois, c'était il y a 2 ans. L'écriture de ce livre, en fait, c'est quoi le thème de ton livre ?
Alors, il me semble de mémoire qu'on s'était parlé. En fait, moi, mon sujet de prédilection, c'est la marque. Je me pose beaucoup de questions aussi sur la réussite. Et donc, j'ai voulu parler de réussite dans ce livre qui s'appelle Remarquable. Et le sous-titre, c'est réussir en créant une marque unique, durable et rentable. Et l'idée, c'est effectivement, enfin, en tout cas, moi, mon credo, ma croyance forte, c'est qu'effectivement, tout le monde peut développer son activité et se développer lui-même, justement, en s'appuyant sur une marque. Et l'idée, c'était de faire en sorte que je puisse donner l'ensemble de ce que j'ai pu apprendre, moi, dans mon parcours d'entrepreneur, ce que j'ai appris aussi en tant que coach, puisque je coach des entrepreneurs pour les aider à élever leur marque, à grandir, et de partager tout ça avec des choses assez simples, avec des exercices. Et ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, j'ai reçu un message tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui me dit je suis en train de lire le livre de Pierre et je dois dire il y a un passage vraiment remarquable où je parle des mentors notamment et Pierre ne se contente pas de dire quelle marque l'inspire mais il justifie pourquoi et comment il intègre cette inspiration dans sa propre activité. Il fait de même pour les mentors. En tout cas, les choses deviennent limpides pour moi, voilà un bon exercice à faire, hashtag inspiration. Donc voilà, je suis super content de ce type de retour parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. Pour ce type de retour, en tout cas pour aider un maximum de personnes, quoi.
Ouais, top. Et alors justement, tu dis que tu es éleveur de marques, et donc moi, la première question que j'ai envie de poser, peut-être que les auditeurs se posent, moi j'aime bien revenir aux bases, parce que comme je le dis souvent, pour être créatif, il faut connaître les bases. C'est quoi une marque ?
Ouais, alors c'est justement j'avais fait cette définition dans ton podcast. La marque, c'est ce qui reste quand t'as plus rien, puisque j'avais évoqué notamment la manière dont j'avais découvert la marque, en fait en évitant la faillite de ma société. Et je pense qu'aujourd'hui la marque, en tous les cas telle que je l'ai triturée dans le livre, elle est constituée de 4 piliers qui sont finalement les quatre parties du livre. Pour essayer de faire simple, donc il y a en fait l'identité qui est souvent la marque est souvent réduite à sa simple identité, l'identité visuelle, un nom, un logo, etc. Et en fait, c'est un des 4 piliers. Le deuxième pilier, c'est pour moi un pilier fort qui est hyper important, qui est pour moi l'état d'esprit, où en fait il est surtout ici question notamment de confiance. Le troisième pilier, c'est la stratégie. C'est effectivement où je vais, à quel endroit, dans quelle direction, quelle marque j'imprime sur le monde. Et puis le quatrième, qui est la relation au public. Je parle vraiment de la façon dont tu travailles avec ta tribu, puisque je parle essentiellement de tribu. Voilà.
Alors, on va rentrer justement dans le processus, dans l'écriture du livre. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu t'es lancé dans cette idée de dire « Ah, et si j'écrivais un livre ?»
Ouais, alors c'est assez, je pense que c'est assez atypique la façon dont je me suis lancé, parce que Tu connais Hélène, ma compagne, puisqu'elle a été invitée sur ton podcast également. Hélène était un été à me dire, en fait, ensemble, on travaille hein, sur l'activité cinéma. Elle est réalisatrice et moi, je produis les films. Elle me dit, cet été, je termine la réalisation de je ne sais plus quel film qui est sorti au cinéma l'année dernière sur le programme Les Mal-aimés. Et moi, je me dis, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire de cet été, sachant que, tu vois, j'aime pas rester sans rien faire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas écrire un livre à un moment où plein de copains le faisaient. Et je me suis dit, bon, OK, allez, je me lance dans ce challenge. Et donc, je me suis retrouvé au milieu de ce challenge parce que le premier truc que j'ai fait, c'est de l'annoncer à tout le monde, enfin, d'annoncer publiquement que j'allais écrire un livre. Une fois que c'était fait, enfin, tout le monde s'en tapait un peu, mais une fois que c'était fait, eh ben, j'étais obligé de le faire. Donc, je me suis lancé. Et voilà, ça a pris un petit peu de temps.
Ouais, et alors justement, raconte-nous un petit peu le processus de cette écriture de livre. Quelles ont été les différentes étapes pendant cette
Ouais.
écriture?
Alors, en fait, j'en ai identifié 12, mais là, je vais faire un résumé. Mais ceux qui s'intéressent, je pourrais leur envoyer les 12 étapes. Je pense que pour moi, le processus a été un d'avoir vraiment envie de le faire. Donc, ça, c'est la première étape selon moi. La deuxième, ça a été effectivement de l'annoncer publiquement pour me mettre un petit coup de pied au cul et m'obliger à le faire. Parce que sinon, en fait, tu peux juste avoir envie et ne jamais le faire. Ça aussi, c'est un des messages dans le livre, c'est faire plutôt que le dire. Donc pour moi, c'est effectivement l'étape 2, c'est de commencer enfin de l'annoncer. Ensuite, 3, c'est commencer justement de poser les bases. Donc tu vois, effectivement, de revenir à la définition de la marque. Est-ce qu'une marque, comment je gère moi mes coachings au quotidien, quelles sont les questions qui sont récurrentes. Et il y a une sorte de gloubi-boulga assez énorme avec plein de choses qui arrivent, avec j'ai envie de dire plein de trucs et je me dis, mais ce livre, ça va être imbuvable. Et je bloque vraiment sur cette étape comment dire, de filtrer, enfin, d'essayer d'organiser mes idées. Parce qu'en gros, j'en ai plein, mais je ne sais pas comment elles vont s'articuler, comment elles vont être hyper cohérentes. Et le travail que j'ai fait, au bout d'un certain temps où je bloquais, je me suis dit, OK, je vais prendre ce livre, je vais prendre ce projet un peu comme si je coachais un client, comme si je coachais un champion. C'est comme ça que j'appelle mes clients. Et en fait, tout est devenu limpide. C'est-à-dire que j'ai pris, alors c'est un peu schizophrénique, mais j'ai pris vraiment cette posture de me dire, OK, Pierre, qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Qu'est-ce que tu as envie de dire? À qui tu as envie de t'adresser? Comment ça va se passer? Et donc ça, c'était une première étape qui m'a beaucoup aidé dans mon processus. Et il y a eu une deuxième étape, en fait, puisque ça m'a permis de me lancer, en tout cas d'écrire le plan. Donc ça, c'est aussi une étape importante, de valider le plan avec l'éditeur. Je te fais un raccourci quand même. Et puis, une fois que j'avais validé le plan, bah, il fallait que je commence à rédiger. Et au moment de la rédaction, puisque j'avais levé quelques doutes, j'avais levé quelques peurs, j'ai mis à peu près 2 mois pour écrire le premier chapitre. Et je n'arrivais pas à démarrer. Donc, j'écrivais plein de choses, mais j'arrivais jamais à me dire le chapitre est fini. Et là, j'ai fait un exercice que j'ai pas mal partagé sur les réseaux sociaux, qui pour moi était un exercice hyper fort, hyper important, et qui m'a permis aujourd'hui de me dire c'est fait. Ça a été de visualiser le résultat. Et donc, le résultat pour moi, donc j'ai visualisé tout le processus de création. Et en fait, le déclic s'est fait pour moi. Je visualisais, tu vois, j'ai laissé mon cerveau visualiser, ça aussi c'est un exercice que je fais en coaching avec mes champions. Et je me suis imaginé à une séance de dédicace où j'avais un entrepreneur en face de moi qui me disait, Pierre, merci, ton livre, il est hyper simple, hyper accessible et surtout il y a des choses actionnables que je peux mettre en place tout de suite. Et à partir de là, je me suis dit, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je veux dire et je sais quel ton je vais employer. Et là, j'ai levé tous les doutes qui étaient de me dire, est-ce que ce livre va être bon pour un tel ou un tel? Est-ce que machin va comprendre? Est-ce que truc va comprendre? Et en fait, je me suis dit, ben, en fait, on s'en fout. Tu vois, le livre, il est fait pour ces entrepreneurs-là, à qui on essaye de vendre plein de trucs, à qui on essaye de proposer plein de trucs, qui sont un peu perdus parce qu'effectivement, ils ne savent pas où aller ou par quelle boule prendre. Et je me suis dit, ben, ce livre, c'est à la fois un guide, mais aussi une méthode, c'est aussi et aussi un point qui est hyper important, c'est aussi de lui donner confiance à ce lecteur, à cet entrepreneur ou à celui qui veut se lancer, pour que justement, à la fin, en fermant le livre, il se dise, putain, c'est génial, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller.
Tu partages un truc super important quand on écrit un livre, et bon, je l'ai souvent partagé, et la plupart des auteurs qui sont passés me le racontent, c'est en fait c'est toujours penser à son lecteur. En fait, c'est vraiment de penser à son lecteur idéal. Hein. Donc, en plus, que ce que je me suis aperçu, c'est que ça marchait aussi bien donc, pour de la non-fiction, comme le livre que tu as écrit, mais ça marche également pour de la fiction, notamment sur des livres de genre, que ce soit pour du thriller ou des livres de fantasy. Eh ben, on peut identifier un lecteur type, voilà, qui va consommer, là on peut vraiment parler de consommation, qui va vraiment consommer ce genre de livre. Et donc, c'est vrai que apparemment c'est chez toi ce qui t'a vraiment permis d'avancer, de driver, c'est vraiment le dire, ouais, mais ce livre-là, je veux l'écrire donc, pour mon lecteur et donc ton lecteur et cet entrepreneur à qui tu t'adresses.
En fait, ouais, exactement. J'avais en tête cette. Alors, moi, j'ai plutôt des clients, des clientes plutôt que des clients, et donc c'était effectivement plutôt une entrepreneur. Donc, elle n'existait pas vraiment, mais c'était vraiment l'entrepreneur de cette visualisation. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple parce que je me mettais beaucoup de pression, tu vois. C'est là où ce fameux syndrome de l'imposteur qui a bonne presse, tu vois, qui te frappe à la porte et qui dit « Mais t'es qui, toi, pour faire ce livre ? Mais est-ce que tu crois vraiment qu'on te comprend ?» Et puis si machin, qui est la sommité de ton secteur, te pose des questions, est-ce que… Et en fait, j'ai vraiment retiré toutes ces pensées limitantes, tous ces freins, en fait, justement en me disant, mon focus, il est vraiment sur la simplicité, l'accessibilité et le fait que ce soit actionnable. Ce qui veut dire, par exemple, enfin, je spoil un peu, mais tu vois, le mot marketing apparaît moins de 10 fois dans le bouquin. Donc, il y a le mot branding, il apparaît juste parce que, en fait, c'est la définition du métier d'un des types que je cite, mais le mot branding n'apparaît pas. Tu vois, et en fait, c'est vraiment été de retirer toute difficulté pour que, et pour le coup, je suis assez content parce que les retours que j'ai, c'est des personnes qui sont pas forcément des lecteurs, c'est pas forcément des gens qui lisent ce type de livre d'ailleurs, ou qui sont forcément des entrepreneurs avec une dynamique genre la marque, le branding, le marketing. Et je m'adresse vraiment à des entrepreneurs complètement différents. Hier, j'avais, le patron d'un restaurant, un autre qui travaille dans le BTP, j'ai quelqu'un qui veut se lancer, qui est dans le branding justement, mais qui veut se lancer dans un autre métier qui est la décoration. Et c'est vraiment très, très surprenant, quoi. Donc, c'est assez chouette.
Oui, mais après, ce qui est génial avec un livre, c'est que les gens, ils se reconnaissent dans ton livre, mais surtout, ce que je me suis aperçu, c'est que moi, les retours qu'on m'a fait quand j'ai publié mon livre, c'est que les gens me disaient, ce qui est impressionnant, c'est que quand on t'écoute parler, par exemple, en podcast ou qu'on discute avec toi et qu'on lit ton livre, c'est un des commentaires que j'ai reçus, c'est « Tous les soirs, je discute avec toi en lisant ton bouquin ». Ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. C'est la personne me disait « Mais tu sais que tous les soirs, en fait, je passe 30 minutes avec toi et en train de discuter. » Parce qu'elle lisait mon livre et elle avait l'impression en fait, de discuter avec moi. Et je me suis dit « Waouh !» Je lui ai dit « Mais attends, t'imagines qu'il y a des gens qui discutent avec moi sans même que je sois avec eux. » Je trouvais le concept formidable, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui discutent avec nous sans même qu'on s'en aperçoive.
Ouais. Moi, c'est un truc qui m'a guidé aussi sur la couverture, où je me suis dit, ce livre va se retrouver sur la table de chevet des lecteurs, ou dans la bibliothèque des lecteurs, ou posé sur un bureau. Et je me suis dit, il faut absolument que cette couverture, elle soit, ce titre, il est fort quand même, remarquable. Et donc, il faut absolument que cette couverture, elle soit elle aussi remarquable. Et en même temps, qu'elle soit intemporelle. Parce que ce livre, il n'est pas ancré dans une époque. Il est vraiment sur beaucoup plus dans une question d'état d'esprit, finalement, que de technicité. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, j'avais rendu le manuscrit et je me suis dit, ah merde, j'ai pas parlé de cette technique. Et l'éditrice, elle me répond, mais en fait, ton livre, il n'est pas sur de la technique. Et je dis, ouais, t'as raison. Donc, en fait, je m'en fous de ne pas avoir parlé de cette technique. Donc, tu vois, mais il y a toujours quand même un truc, enfin, je pense que tu le sais, hein, mais quand t'es dedans, il y a des choses, tu te dis, tiens, j'ai oublié ça, ou tu te rends pas compte. Une fois que tu le relis, bah, tu sais pas. Parce que dans les étapes, on n'a pas décrit aussi toute la. Enfin, moi, pour moi, j'ai passé un moment assez agréable à l'écrire. Et le moment désagréable, c'était plutôt sur les relectures.
Alors rassure-toi, c'est normal. Hein. Ouais. Je connais aucun auteur en fait pour qui la relecture, la correction, c'est un moment agréable. Moi, je sais que par expérience, quand j'avais fini d'écrire mon premier livre, donc tout seul, hein, parce que j'en avais écrit un autre avec mes co-auteurs, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai fait pause pendant une semaine pour sortir du livre. Parce que quand tu es dans l'écriture de ton livre, tu es dans une énergie qui ne te permet pas de voir les fautes, que ce soit des fautes syntaxiques, de grammaire ou même de sens. Et donc, pour avoir une énergie différente, moi, je sais que je m'étais coupé de mon livre et de me dire, OK, je vais le laisser de côté, je vais faire autre chose et j'y reviendrai seulement dans une semaine pour avoir un autre état d'esprit, une autre, nouvelle lecture, une nouvelle
fonction. Ouais. Et encore, une semaine, c'est short. Hein. Moi, tu vois, sur l'écriture, j'ai commencé à peu près en septembre parce qu'il y a eu la rencontre avec les éditeurs, parce qu'il y a eu plusieurs éditeurs avec qui j'ai discuté en fin janvier, début février. Ensuite, il y a eu l'arrivée du Covid, ce qui a un peu ralenti tout, mais qui en même temps a donné une autre dynamique au livre, parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de décider avec qui j'avais envie de travailler. Parce que j'avais envie de faire un livre qui soit pas juste un guide pratique. J'avais pas juste envie d'un guide, tu vois, d'un guide technique. Je voulais vraiment travailler sur le fond des choses, sur l'état d'esprit qui, pour moi, enfin, le fait de donner du sens à sa vie, on était en plein dedans, quoi. Tu vois, on était juste confinés, tout le monde entier, parce que c'était le premier confinement. Et je me suis dit, c'est ça, c'est là où je veux aller. Et l'éditeur avec qui j'ai discuté à l'époque, donc Alizio, en fait, elle m'a vraiment encouragé, l'éditrice qui était sur le projet au départ, m'a vraiment encouragé dans cette direction et je me suis dit, c'est avec eux que j'ai envie de bosser. Et en fait, après, j'ai eu un petit accident, j'en parle aussi dans le livre, juste le jour du déconfinement, un petit accident, donc je me suis retrouvé dans la salle d'attente des urgences et petit truc de fou, synchronie, assez dingue, c'est que j'avais je vais spoiler, mais en fait, j'ai un accident, mon chien se blesse et en voulant le libérer de là où il s'était accroché la patte, en fait, il me mord les mains, il me mord le visage. Donc, en fait, moi, j'arrive dans le sas des urgences seul, puisque Hélène ne peut pas m'accompagner. Seul, les mains en sang, le masque sur le nez avec le visage qui coulait du sang. Enfin bref, c'était assez horrible à voir, même si moi, j'ai pas vu grand-chose. Et en fait, je scrolle mon téléphone avec les mails parce que je patientais et je reçois ce mail de mon éditrice qui me dit « Pierre, en fait, ton projet est validé, on va le sortir ». Donc, c'était un moment assez ouf parce que j'étais à la fois, je flippais totalement de ce qui allait m'arriver parce que est-ce que j'allais retrouver l'usage de mes mains, etc., etc. Et puis, à côté, c'était waouh, je vais sortir un livre, quoi. Et en même temps, j'avais le tout de suite après, je me dis, mais comment je vais écrire le livre si j'ai pas les mains? Enfin, tu vois. Et donc, c'était une sorte de moment très, très particulier qui a duré 2 jours parce que j'ai fait les urgences de Valence puis les urgences de SOS Main le lendemain à Montélimar. Enfin, bref. Donc, ça a été assez, assez particulier. Et puis après, il y a eu l'été, la négociation du contrat qui a duré un petit peu de temps puisque après, on cite les gens étaient en vacances. Et donc, j'ai commencé vraiment en septembre l'écriture du livre, quoi. Voilà.
Et alors,
et donc, l'écriture, en fait, qui a duré septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, et je rendais le mi-février le livre. Ce qui fait qu'il y a un temps long, en tout cas, selon moi, il y a un temps long, mais le temps long était encore plus long une fois que tu as livré le manuscrit. Et là, tu attends les retours de l'éditeur sur la maquette, la couverture, la mise en page, les corrections. Il y a plein de gens qui corrigent ton livre. Ensuite, moi, j'avais fait une bêta lecture, donc j'avais aussi une manière de corriger. Et puis, une fois que tout est fait, donc moi, ça s'est fini un peu tard, parce que ça s'est fini à peu près mi-août. Normalement, c'était fin juillet, mais bon, voilà. Et le moment entre où ça part chez l'imprimeur et le moment, moi, le plus dur, c'était le moment où j'attendais le livre fini dans ma boîte aux lettres. Parce qu'une fois que je l'ai vu, j'ai vu le résultat, je me suis dit, OK, ça c'est bon, je visualise, c'est parfait. J'ai toujours une inquiétude avec les impressions, avec le rendu, etc. Et une fois que c'était fait, c'était parti, quoi. Et après, peu de temps après, c'est assez peu de temps, puisqu'au final, après, il y a eu la rencontre avec le public pour la sortie du livre. Il y a eu des invités aussi, des invitations sur des podcasts. Je fais des lives. Et puis là, depuis une semaine, puisque le livre est sorti la semaine dernière exactement, bah, je reçois plein de messages. Et ça c'est vraiment... Ça, je ne m'imaginais pas. Je ne l'imaginais absolument pas. Donc, ça, c'est cool.
Top. Justement, tu vois, dans le podcast, j'ai souvent rencontré donc, des auteurs de livres. Et beaucoup, en tout cas, la plupart que j'ai eus, ce sont souvent des auteurs qui ont auto-édité leurs propres livres. Mm-hmm. Donc, toi, tu es passé par une maison d'édition. Je voulais savoir comment s'est passée la relation avec ta maison d'édition pendant l'écriture de ton livre.
Ouais, alors pour le coup, c'est un peu une petite frustration. C'est que pendant l'écriture, j'ai pas forcément de retour et de rapport avec la maison d'édition, mais en même temps, on avait fait un gros travail avant, à la fois sur le positionnement du livre, sur ce que je voulais vraiment donner, sur les allers-retours sur le plan. Et en fait, je pense que c'est aussi bien, finalement. Alors, il y a des moments, parce que tu traverses des moments de doute, et c'est là où tu dis, tiens, j'aimerais bien qu'il soit là, et puis en fait, bah, lui, il est aussi sur d'autres sujets, ou d'autres projets. Mais en même temps, une fois que le livre est sur les rails, après, normalement, ça roule, quoi, tu vois. Et ensuite, il y a même quand toi, tu l'as rendu, finalement, il y a. Parce que pour moi, fin février, pour moi, le livre était terminé. J'ai eu les retours de la première correctrice qui ont été assez. Il y avait peu de corrections. À la fois orthographique, parce que j'ai eu vraiment des bêta lecteurs en or, d'ailleurs je les remercie. Et ensuite, je me suis quand même remis dedans, parce qu'il y a effectivement une deuxième relecture qui là était plus sur la mise en page. Et en fait, visuellement, je voyais les choses de manière un peu différente. Donc, tu vois, j'ai remis les mains dedans, mais bon, sans aller dans le fond des choses, mais tu vois, il y a des choses, j'ai raccourci des exemples ou j'en ai mis un autre. J'ai enlevé aussi des choses que j'avais mises, parce qu'entre février, par exemple, je parle de Clubhouse, entre février et juillet, il s'était quand même passé des choses, notamment sur ce réseau social. Donc voilà. Et en fait, bah, la relation avec l'éditeur, c'est... Moi, en fait, comment dire, je suis aussi éditeur donc, de livres pour enfants, de livres jeunesse. Donc, je pense que c'est aussi un rapport qui est très, très particulier parce que je connais leur métier, je sais comment ça marche. J'ai aussi travaillé dans l'industrie du disque. Donc, je sais aussi comment on fait un placement de livres ou de disques en librairie ou tu vois, en réseau Fnac. Voilà, donc je connais le vocabulaire, je connais la distribution. Enfin, tu vois, je connais toute la chaîne. Donc, c'était assez... assez simple au final parce qu'on se comprenait et puis derrière j'étais surtout là pour les aider à faciliter leur travail. Donc ils me disent à chaque fois que je les ai finalement c'est merci parce qu'effectivement on a des auteurs qui comprennent pas toujours ou qui sont pas toujours impliqués ou qui veulent pas faire de vidéos ou ceci ou cela. C'est vrai que sur la couverture par exemple moi je me sentais hyper relou, tu vois, je crois qu'il y a eu 18 versions de la couverture, mais ouais, j'exagère, mais il y a eu plein de micro-corrections. Mais en fait, j'avais vraiment peur parce que la première fois que je l'ai reçu, je me suis dit, mais au secours, quoi. J'ai dit à l'éditrice, je fais moi, je veux pas sortir ce livre, tu vois, avec la première version de la couverture. Et en fait, elle m'a dit, mais Pierre, il n'y a pas de problème, on va le refaire. Et là, je me suis senti, tu vois, vraiment soutenu parce que j'avais, en fait, il y a aussi pas mal de comment dire, il y a aussi pas mal de légende urbaine, tu vois, sur l'éditeur, sur la relation auteur-éditeur. Et je pense qu'en fait, la relation, mais comme toutes les relations d'ailleurs, elle se fait aussi en fonction de qui tu es, ce que tu veux, est-ce que les choses sont claires dès le départ. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai eu mon éditrice pendant une heure hier au téléphone, on se faisait un point sur la sortie, ce qui se passait, quelle était la stratégie maintenant, une fois que tu vois, ça avait été mis en place ici ou là. Moi, j'avais encore des questions. Et en fait, bah, ils sont, enfin, en tout cas, l'éditrice qui, j'ai eu trois éditrices sur ce projet, ce qui est assez, assez fou parce que chez Alizio, ça bouge pas beaucoup. Mais là, en fait, l'année où j'ai eu mon livre, j'ai eu trois éditrices différentes. Mais là, l'éditrice qui est sur le projet, elle est super. Enfin, tu vois, elle écoute. Elle me dit les choses quand il faut me dire les choses. Et puis, elle me dit là aussi, OK, j'ai entendu ce que tu me dis, je comprends. Elle n'est pas forcément d'accord, mais en tous les cas, elle fait remonter aussi l'info et puis elle fait circuler. Donc, c'est... Voilà, après, il y a toujours des zones de frustration parce qu'on voudrait en vendre plus, on voudrait plus de presse, on voudrait plus de ceci, plus de cela. Mais à un moment, il y a aussi des réalités qui sont aussi leur réalité à eux, quoi. Voilà.
Bah, écoute, merci. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'avais plutôt des préjugés, moi, par rapport à les éditions, mais moi, dans mon cas personnel, je sais que je ne m'interdis pas de me dire, un jour, tu vois, j'éditerai un de mes livres, tu vois, en maison d'édition. Donc, et c'est vrai que, bon, c'est vrai que j'ai plutôt des auteurs, tu vois, des camarades auteurs qui sont plutôt dans l'auto-édition, mais d'avoir ton point de vue, c'est toujours intéressant. Tu vois,
Et en plus, ce qui est aussi, tu vois, dans mes clients, j'ai aussi des gens qui sont auteurs. Hélène, tu vois, qui écrit son premier livre aussi, alors son premier livre de fiction, parce qu'elle fait souvent plutôt de l'illustration jeunesse, mais là c'est une fiction pour adolescents. Et donc là aussi, il y a un rapport qui est complètement différent, parce que c'est aussi des gens qui ont été édités, qui eux vont aller vers l'auto-édition, et inversement, des gens qui ont fait de l'auto-édition et qui vont vers l'édition. Donc tu vois, j'ai vraiment tous les cas de figure, et je pense que, mais comme tous les cas de figure avec qui tu échanges, avec tous les auteurs avec qui tu échanges, ils vont te dire c'est surtout une affaire de personne. Et c'est d'ailleurs la même chose dans l'industrie du disque, dans le cinéma. C'est surtout une affaire de personne, une affaire de rencontre. Si ça colle, ça match, ça va fonctionner. C'est-à-dire que moi, tu vois, avec le Duc, en tout cas la maison mère de Alizio, ça a collé tout de suite. C'est-à-dire que le premier rendez-vous avec la première éditrice que j'ai vue, elle m'a vraiment challengé, tu vois. Moi, j'étais là pour lui vendre un peu mon bouquin et être édité. Et en fait, elle a évidemment écouté, mais c'est devenu une discussion sur le fond du projet. Elle m'a dit, ce que je comprends de ton livre, c'est ça. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est génial parce que c'est... Enfin, en fait, c'est ce qu'on attend, en fait. Enfin, tu vois, moi, la raison pour laquelle je voulais éditer mon livre, c'était déjà d'aller au bout d'une expérience, de faire en sorte de challenger mes idées et de ne pas être seul, parce que c'est vrai que quand tu es seul, c'est difficile de dire est-ce que c'est bien ou pas. Et puis après, il y avait aussi la force d'un éditeur qui te plaçait ton livre un peu partout en France, quoi. Voilà. Et puis après, il y a aussi le petit tampon qui est un peu malheureux en France, mais c'est vrai que quand tu as un éditeur, tu es plus crédible qu'un livre qu'un auteur qui est auto-édité, alors qu'en fait, le livre est le même, quoi. Donc c'est un peu ridicule, mais. Bon, voilà. Moi, c'était un ensemble de choses, et je l'ai souvent répété à mon éditeur d'ailleurs. Je lui ai dit, en fait, moi, j'ai pas besoin de vous. Si je veux sortir mon livre, je le sors, en fait. Par contre, si je le fais avec vous, c'est parce qu'il y a une bonne raison et j'ai envie que ça se passe bien. Donc voilà.
Alors, on va faire un petit détour, mais on va revenir à un moment donné à cette histoire de bonne relation. Moi, je me suis souvenu, tu vois, donc, pendant notre interview, donc. La numéro 8, hein, pour ceux qui veulent écouter cette interview, donc on va le redire, numéro 8, Pierre Dron. Et tu as partagé une phrase, moi, qui m'avait beaucoup marqué et qui ensuite est restée, tu vois, en arrière-plan avec d'autres invités. Tu disais, voilà, c'est cette phrase m'a beaucoup marqué, c'est le stop selling et start telling, tu vois. Et ça m'a beaucoup marqué, tu vois, donc cette histoire, voilà, de stop selling et start telling, notamment autour du storytelling et de finalement partager ces histoires. 2 ans après, voilà, cette phrase, qu'est-ce qu'elle t'évoque aujourd'hui?
En fait, elle m'évoque le chapitre 5 du livre. J'en ai fait, tu vois, effectivement, c'est un truc qui revenait et qui a été un des piliers du bouquin. En fait, donc la traduction, c'est arrête de vouloir vendre, raconte ton histoire. Même si en anglais, ça rend beaucoup mieux. Et en fait, je me suis redit cette phrase ce matin. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait partir ma newsletter. Et je me suis redit la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu tombes dans un travers, parce que là, tu sors ton livre, donc tu as envie d'en vendre beaucoup pour avoir de la reconnaissance, pour pouvoir dire à ton éditeur, t'as vu, en fait, mon livre est bien, t'as bien fait de me faire confiance, pour avoir, je sais pas, des euros sur ton compte bancaire, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de raisons qui te poussent finalement à vendre plus. Et en fait, je me suis redit ça ce matin en me disant, bah attends, t'es pas en train d'essayer de leur vendre ton bouquin, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, essaye de leur donner des éléments. Et donc, je suis parti, parce que l'objectif, c'est effectivement de raconter des histoires, mais moi, mon objectif, c'est toujours de faire en sorte qu'il y ait un apprentissage derrière chaque prise de parole que je peux avoir. Et donc, c'est aussi de partager une expérience, partager une anecdote et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que toi, tu peux en retenir pour ton business à toi, tu vois. Et en fait, c'est pour moi, effectivement, je pense que c'est... En fait, ce qui est difficile aujourd'hui quand tu es un entrepreneur ou quand tu es un artiste, quand tu es un auteur, c'est aussi d'émerger, tu vois, dans la... Comment dire? C'est d'émerger dans cette mare, tu vois, où il y a déjà plein de monde et où tout le monde essaie de vendre quelque chose. Tu vois, un vélo, un service de télé à la demande, des livres, j'en sais rien, tu vois, plein de trucs. Et on est abreuvé de messages. On nous canarde sans arrêt. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on s'est un peu habitué à ces messages publicitaires qu'on refuse d'ailleurs. Donc, on comprend les mécaniques, les ficelles, tu vois, c'est pareil. Dans cette newsletter de ce matin, j'expliquais aussi les classements Amazon, les classements Fnac, ce genre de trucs. En disant que moi, je n'avais pas tellement envie de rentrer dans ce délire. Et j'expliquais notamment l'anecdote de Vanessa Paradis, qui s'est fait connaître aussi. Tu connais sans doute cette anecdote où en fait, Vanessa Paradis s'est fait connaître à l'époque en rentrant directement dans les premières places du top 50 parce que son producteur avait racheté des disques. Et en fait, à l'époque, le top 50, c'était par rapport au nombre de ventes. Donc en fait, en rachetant les disques, hop, tout de suite, tu grimpais dans les ventes. Et donc, tout le monde s'est dit, mais c'est qui cette gamine qui chante, et donc tout le monde s'est intéressé à elle juste parce que son producteur avait acheté des disques. Donc tu vois, tu peux arriver à gruger le système, et voilà. Donc moi, c'est aussi d'expliquer les mécaniques derrière, ou tu vois, pareil sur les préventes, j'ai expliqué à tous ceux qui me suivaient pourquoi les préventes étaient importantes. Les préventes, c'est pas juste je te donne des bonus, mais pourquoi je te donne des bonus? C'est pour que tu achètes des préventes. Et pourquoi il y a besoin de préventes? C'est parce qu'en fait, les libraires vont se dire, tiens, il y a beaucoup de préventes, donc ça veut dire que ce livre, il est attendu, donc ça veut dire que je vais en acheter plus, donc ça veut dire que je vais faire plus de mise en avant. Si j'ai plus de mise en avant, ça veut dire que je vais avoir plus de visibilité dans le rayon. Et si j'ai plus de visibilité dans le rayon, j'ai plus de possibilités de toucher des nouveaux lecteurs et donc d'acheter et de vendre plus de livres. Donc, par contre, tu vois, à partir du moment où tu racontes ça, tu vends pas, tu vois, tu expliques. Et pour moi, la pédagogie, elle est hyper importante. Faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, tu vois. Genre, moi, je déteste ça. Donc, Alors, ça vend peut-être pas du rêve, mais en tous les cas, je vends de la réalité. Et une fois que tout le monde aura compris un peu le monde, comment il fonctionne, bah, en fait, c'est plus simple aussi de s'y intégrer ou en tout cas de jouer avec, quoi.
Ben, en fait, dans ta démarche, ce que j'aime bien, c'est que finalement, toi, t'es honnête, finalement, en disant, non, mais voilà, si on fait des précommandes, c'est parce que, voilà, l'idée, en fait, c'est de montrer qu'il y a un intérêt vis-à-vis de mon livre et que bah, vous pouvez m'aider et contribuer à cet intérêt et que derrière, bah, ça va aider à le faire connaître à plus de personnes. Donc, toi, ton intention, et c'est, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le podcast, c'est que finalement, c'est quoi ton intention de départ ? C'est est-ce que tu as envie de raconter ton histoire ? Est-ce que tu as envie d'augmenter le nombre de ventes ? Et ce n'est pas la même intention. Et ce qui est fou, c'est que les gens, ils le sentent. Ils le sentent à travers tes mots, ils le sentent à travers ta voix, ils pourront jamais te l'expliquer, mais ils le
Exactement.
Sentent, ils le perçoivent.
En fait, c'est une bonne partie du bouquin sur ce sujet, où en fait, notamment, il y a des mécaniques de alors, je parle d'émotion, je parle d'instinct, je parle notamment en fait du cerveau primaire, tu vois, qui en fait va voir le discours comme un danger, tu vois, en disant tiens. Ouais, je suis pas sûr de ton truc là. Et en fait, si effectivement tu es sur des éléments rationnels, tu vois, d'éléments de vente, genre bah, mon bouquin il fait 300 pages, il est jaune, il est de telle taille, il y a X exercices, ouais, ok, mais ça te dit pas qu'il est important. Par contre, si je te parle de ce que j'ai voulu donner et de la façon dont je l'ai fait, et que finalement je vais travailler sur les émotions qui sont les miennes quand je l'ai écrit ou l'émotion, tu vois, que j'ai eue. L'émotion que j'ai eue à le donner ou à le vendre, tu vois, ou à faire une dédicace à des gens qui ne connaissaient pas et qui achètent mon livre. Donc c'est quand même parce que tu as l'impression qu'il y a que ta mère qui va acheter ton bouquin, même si ma mère l'a pas acheté, tu vois. Mais donc tu vois, le fait qu'il y ait des inconnus qui l'achètent, c'est cool. Et en fait, pour ça, en effet, c'est le cœur qui parle, tu vois. C'est si tu touches le cœur, bah en fait les gens vont acheter. Donc c'est simple, c'est efficace. Par contre, la raison, elle, va toujours avoir un moyen de te dire ouais, mais oui, mais j'y crois pas. Oui, mais j'ai l'impression de me faire avoir. Oui, mais etc. Et donc finalement, ce que j'explique là, c'est exactement, enfin c'est ça, hein, le stop selling, parce que si tu essayes de vendre, les gens le sentent, les gens le voient, etc. Start selling, bah raconte avec ton cœur ce qui se passe et surtout. Au-delà de vendre ou vendre plus ou vendre mieux, c'est aussi que tu vas toucher des gens qui sont pareils que toi. Et c'est là où tu vas créer une vraie relation forte et importante plutôt que de vendre à plein de gens qui, de toute façon, n'ont rien à péter. Et donc là, c'est là où tu attires des mauvais clients, c'est là où tu attires des gens qui vont te casser les pieds, etc., etc. Donc, le fait de partager ton histoire, le fait d'échanger, de discuter, te permet d'être un peu plus en phase avec ton public. C'est pour ça que je parle de la tribu, tu vois, dans ce chapitre 4 du livre, où effectivement la relation, elle est beaucoup plus importante, tu vois. Cette relation, elle s'installe dans le temps plutôt que de s'installer de manière immédiate. J'achète une baguette de pain et je me barre, tu vois. Et en fait, ça n'a pas de sens dans notre façon de construire le monde aujourd'hui. Avec l'année, tu vois, l'année et demie qu'on vient de passer avec ce Covid, ce confinement et tout le tremblement. Et il faut qu'on arrive à retrouver du sens dans notre façon de faire. Et puis surtout, il y a aussi une réalité, tu vois, une réalité à la fois économique, sociétale, environnementale, de comment je me positionne sur cet échiquier, moi, en tant que personne. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie d'imprimer comme marque sur le monde, quoi, tu vois, hein, qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Parce que de toute façon, il faut qu'on change les choses.
Ouais, non, c'est passionnant. Et en plus, tu parles d'un sujet, voilà, aussi qui a émergé. C'est cet aspect, voilà, donc moi que j'ai appelé follow-up, mais vraiment, en fait, de relations. C'est-à-dire, d'entretenir les relations, tu vois. Donc, non seulement, avec ton audience, avec tes abonnés, tes clients, mais même aussi avec tes partenaires. Voilà.
Ouais, ou tes salariés, ouais, carrément.
Ou même avec tes salariés, tu as raison, avec tes salariés, en fait, avec n'importe qui. En fait, finalement, avec n'importe qui, c'est super important. Moi, je dis souvent que moi, le meilleur exemple de follow-up que je puisse présenter, moi, c'est le podcast. Et cette interview en est la preuve. J'étais interviewé il y a 2 ans. Voilà. Et bah, voilà, on s'est suivi de loin, voilà, on s'est échangé 2-3 petits messages. Et c'est par le biais d'un futur invité dont on ne va pas spoiler, parce que quand même, ce serait pas sympa. Hein, donc, mais c'est par le biais d'un futur invité du podcast que j'ai revu ton nom. Je me suis dit,
Pierre. En même temps, je pense que quand cette interview sera diffusée, la sienne sera déjà diffusée, j'imagine. Non.
Je peux te l'annoncer normalement. Ton interview va sortir, voilà. Donc je ne couperai pas, parce que je suis feignant.
Mais en tous les cas, ce qui est cool avec cet invité, dont on ne citera pas le nom, mais merci, j'ai presque envie de citer juste son prénom, mais en tout cas, ce qui est chouette, tu parlais de relations, bah, typiquement, c'est aussi une personne avec qui j'ai échangé, on en parlait avant d'enregistrer. C'est quelqu'un qui, effectivement, m'a recommandé pour ton podcast, et il ne savait pas qu'on se connaissait déjà, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est quelqu'un aussi avec qui on a échangé, je ne sais pas par quel hasard, sur les réseaux sociaux. Il s'est avéré qu'il venait s'installer juste à côté de chez moi dans la Drôme, et pour le coup, qui a aussi écrit un livre, et qui en plus, un moment cet été où il me disait, enfin, je partageais mes galères de correction, il m'a proposé son aide, tu vois, de manière facile, simple. Et il est tombé du ciel. Et en fait, on a effectivement créé une relation un peu plus forte parce qu'effectivement, on était aussi ouvert à ces relations. Et je pense que c'est aussi, à mon avis, un des enjeux peut-être d'être un peu plus open vers l'extérieur. Alors, ce n'est pas forcément un sujet dont je parle. C'est sur la quatrième partie qui est la relation avec ton public, même si pour moi, c'est une question d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est plutôt l'état d'esprit, la partie 2. Parce qu'en gros, si effectivement, tu as un peu d'assurance, le temps dégage. Et donc, tu attires aussi des personnes qui sont pareilles que toi, ou en tout cas qui vont venir chercher des choses. C'est un peu la logique du leadership, quoi. Tu vois, la marque, c'est aussi une manière d'être un leader et d'amener aussi des gens à transformer le monde avec toi. Et en fait, je vais pas spoiler, mais en tout cas, je considère aussi que les clients, les prospects, tous ces gens qu'on cite, je propose dans le bouquin une relation qui est tout autre, tu vois, quelque chose qui à mon avis, on s'est peut-être déjà vu, je sais pas, moi je l'ai pas vu en tout cas, mais je propose une relation qui soit simplifiée, parce qu'encore une fois, on essaie de complexifier la chose. Je suis prospect, je suis un prospect chaud, je suis un lead froid, je suis un client, je suis un partenaire, je suis un salarié, je suis un alternant, un stagiaire, enfin tu vois, il y a toute une quantité de choses. En fait, la communication, c'est ni plus ni moins une personne A qui va parler avec une personne B. C'est une relation. Et si effectivement on simplifiait ces rapports avec les gens, d'ailleurs dans le livre, tu vois, je tutoie mon lecteur. Et beaucoup en fait, certains, tu vois, me disent mais on se connaît pas, pourquoi vous me tutoyez? En fait, déjà tu m'ajoutes sur les réseaux sociaux alors que je te connais pas, donc tu vois, ça veut dire que je te considère comme une relation ou comme un ami. Donc à partir de là, moi je tutoie mes amis, je tutoie mes relations, donc toi je te tutoie aussi. Et le lecteur, c'est aussi le tutoiement qui permet de se mettre à la même hauteur, tu vois, c'est vraiment de se dire on est pareil, toi et moi, donc je te tutoie.
Et puis c'est comme ça que tu fonctionnes.
Ouais. Et ce qui permet aussi d'entretenir cette relation, parce que si effectivement je te vouvoie, ça veut dire que je peux me positionner au-dessus parce que j'ai écrit un livre que toi tu es en train de lire, donc voilà, un peu comme les marques pendant longtemps sont positionnées au-dessus de leurs clients parce qu'en fait elles envoyaient un message et toi tu recevais le message. Là, la relation, elle est complètement différente. Moi, pour moi, le livre, c'est un lieu, un peu comme une arène, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un lieu d'échange, tu vois. C'est une sorte de café dans lequel on va venir discuter. Et donc, je propose des sujets, je pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'exercices. Tu vois, je te lisais, je crois, hors antenne, le message que j'ai reçu juste avant qu'on enregistre, où effectivement, ça chamboule, tu vois, ça bouscule, et les gens m'envoient des messages en disant « Ouais, cette question, j'arrive pas à la résoudre, je sais pas comment avancer, en tout cas, ça me questionne, ça fait 10 jours que je me questionne. » Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Et par contre, les gens me sollicitent en me disant « Ouais, tu me poses une question, moi, je te réponds. » Et c'est ça que j'ai voulu créer, tu vois, dans le livre. En tout cas, c'est de créer cette relation. Parce que pour moi, c'est d'engager la conversation, quoi.
Non, mais c'est un vrai sujet, hein, les relations. Mais même, c'est vrai, je trouve que suivre les relations, parce que il y a plein de techniques finalement pour aborder les gens, tu vois, pour aller leur parler, tu vois, juste leur parler quelques instants. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai le plus appris grâce au podcast, grâce aux invités, hein, donc notamment toi et d'autres, c'est cette capacité d'entretenir les relations. Parce que c'est bien, tu vois, de dire, ah, par exemple, ah, j'ai capturé son email, puis je vais le balancer, tu vois, des emails. Mais il y a autre chose derrière, tu vois, il y a cette capacité, voilà, de vouloir entretenir la relation. Et c'est vrai que c'est la plus grande leçon que j'ai apprise, tu vois, ces deux dernières années, c'est cette capacité vraiment, à entretenir la relation, tout simplement, de prendre des nouvelles, tu vois, en disant, oh, dis-moi, comment tu vas? Juste un message, et puis en plus, la forme peut changer. Ça, c'est quelque chose qui a, moi, je peux dire, c'est quelque chose qui a changé ma vie, tu vois, donc c'était pas prévu. Et en plus de cela, j'ai joué aussi quelque chose, c'est que dans ce podcast, je suis ultra honnête. C'est-à-dire que vraiment, je peux partager mes opinions, enfin, je raconte autant de conneries, je peux dire des gros mots, mais parce que derrière, les gens que j'attire, en fait, ils disent, ouais, mais nous, on aime bien Pascal, quoi. Parce que ce qu'ils achètent, en fait, c'est pas toutes les conneries que je raconte autour de la créativité, mais c'est mon personnage. C'est vraiment mon personnage.
Ouais, en fait, c'est un concept qui est très à la mode, hein, mais qui est un peu un mot fourre-tout que j'ai un peu plus de mal, mais c'est le mot, c'est l'authenticité, en fait. Pour moi, c'est effectivement d'être soi-même. Et en fait, l'authenticité est une manière un peu détournée, c'est une sorte de maquillage de qui tu es vraiment. Et aujourd'hui, on place l'authenticité comme étant une valeur forte, etc. Mais en fait, c'est de où, enfin, pourquoi on remet ça au centre du village, hein? C'est aussi parce que derrière, pendant longtemps, on fait du faux, tu vois. On n'est pas vraiment nous-mêmes. On n'est pas. On se dit tiens, je suis invité sur tel podcast où il faut que je sois attention. Je vais mettre un beau t-shirt. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. En fait. Sauf qu'on se met des barrières, et souvent l'entrepreneur, tu vois, parce que c'est pas un métier qu'on apprend à l'école, donc en fait, on va se mettre aussi des barrières, où je parle souvent aussi du costume de l'entrepreneur. Donc tu vas mettre ton costume, ou en tout cas, tu vas mettre ton bleu de chauffe. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre un costume. Ton costume, c'est qui tu es toi. Et un des messages de ce livre, c'est aussi réfléchis, pose-toi vraiment la question de qui tu es vraiment, au fond de toi. Non pas ce qu'on attend de toi, non pas ce que la société attend de toi, non pas ce que tes parents te demandent d'être ou de faire, ou tes collègues, ou ta famille, ou ta femme, mais pose-toi la question de vraiment qui tu es toi et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à entendre parce qu'en fait, on a souvent mis un petit peu le couvercle au-dessus de ça en se disant « ouais, bon, on verra ça plus tard » ou en tout cas, il y a des obligations, il faut que je paye mon prêt, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Mais en fait, avec ce qui vient de se passer, on revient un petit peu à ça, tu vois. Quelle est l'essence de ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Le Covid a remis un petit peu… En tout cas, pour tout le monde en même temps, parce que souvent, c'est ce genre d'événement, tu vois, tu peux perdre un proche, tu peux avoir un accident, tu peux avoir des rappels à la vie, tu vois, des rappels à l'ordre. Là, le Covid a fait un rappel à l'ordre général pour tout le monde, tu vois. Donc, en tout cas, je l'espère. Donc après, c'est effectivement, tu quittes toutes tes armures, toutes tes protections, et puis tu es toi-même, quoi. En tout cas, c'est pour moi, là, c'est aussi au-delà d'échanger, de discuter avec les autres, c'est aussi beaucoup plus simple pour soi, tu vois. Dès l'instant où je suis moi-même, je ne vais pas me poser de questions, savoir qu'est-ce que je dois mettre comme vocabulaire, qu'est-ce que je dois mettre comme fringue, qu'est-ce que je dois faire transmettre comme émotion, tu vois. Je calcule pas, j'ai pas préparé cette interview, je t'enregistre, boum, on est nous-mêmes, quoi. C'est simple, en fait.
Ça facilite la vie, en fait. C'est que,
exactement.
Moi, je sais que je suis un feignant, et donc c'est vrai que quand tu penses à toutes ces étiquettes, à toutes ces croyances à la con, à toutes ces histoires que l'on se raconte et qui consomment de l'énergie, c'est vrai que quand tu décides en fait de dire oh, « attends, tu sais quoi, je vais mettre ça à la poubelle » et que finalement, tu laisses passer, donc de temps en temps, ça t'arrive de raconter des conneries. Je dis « ouais, mais bon, tant pis, quoi, c'est pas grave, moi j'ai été moi-même. »
Mais même au-delà de ça, tu vois, ça fait vraiment partie… Là, la dernière fois, on avait peut-être fait quelques jeux de mots, etc. Là, on est un peu plus sérieux, mais c'est vrai que j'apprécie, moi, les jeux de mots, j'apprécie le second degré ou le double sens. Et en fait, tu vois, le titre, c'est un double sens. Le nom de ma boîte, c'est un double sens. C'est aussi des jeux de mots. Et en fait, c'est aussi tout ce que je suis, tous les points de contact, toutes les personnes qui vont me toucher à un endroit, c'est-à-dire que sur Instagram, sur LinkedIn, sur mon livre, sur mes mails, sur mes vidéos. En fait, ils vont pas avoir l'impression d'avoir quelqu'un. Ils vont me croiser dans la rue. Je suis exactement la même personne, tu vois, en coaching, dans mes prises de parole, parce que c'est aussi beaucoup plus simple, tu vois, comme tu dis, dans notre quotidien, d'être nous-mêmes, quoi. Maintenant, ce qui est difficile, pour quelle raison ? Expliquons un petit peu pour quelle raison on se met ces trucs. C'est juste que l'être humain est un animal social. Il a besoin de la reconnaissance de l'autre, il a besoin d'être accepté, il a besoin de vivre en meute. S'il ne vit pas en meute, il est exclu du groupe, et s'il est exclu du groupe, il meurt. Ça, c'était une réalité du Néandertal, du Cro-Magnon, et qu'on a un peu intégré dans notre cerveau primaire. Et en fait, si effectivement on va au-delà de ça, et c'est ce que j'explique moi souvent en coaching, c'est pas parce que tu vas être rejeté de tel groupe, ou en tout cas que tu vas être remarquable ou remarqué, c'est que en fait tu vas attirer d'autres personnes qui sont exactement comme toi. Et en fait, la plupart du temps, ils me font confiance, donc ils vont dans cette direction. Et là, ils se disent, ah tiens, il y a machin qui me parle. Ah tiens, j'ai eu une discussion avec ça. Et tiens. Et en fait, il y a effectivement toute une tribu qui va se constituer autour de toi, parce qu'effectivement, tu vas trouver une autre meute, quoi. Tu vois, si on parle de meute plutôt que de tribu.
Ouais, de meute, mais c'est vrai que moi je suis pas fan du mot communauté, mais voilà, en tout cas groupe de personnes, en tout cas de tes semblables, enfin.
Moi je parle de tribu en fait, parce que pareil, le mot communauté c'est assez proche du communautarisme, et effectivement il peut avoir un effet pervers de la communauté, parce que la communauté est pas forcément très open. Alors que l'idée de la tribu, et d'ailleurs il y a un schéma sur ce sujet dans le livre, la tribu c'est moi plus une personne, on est une tribu. Et ensuite les tribus ensemble constituent une société. Et les sociétés ensemble constituent en fait une envie de vivre ensemble, tu vois. Et l'envie de vivre ensemble permet à chacun individuellement de se reconnaître et de se retrouver. Et donc en fait c'est vraiment, quand tu regardes, c'est un cercle vertueux. Tu vois, plutôt que d'être des entités indépendantes ou des entités interdépendantes, c'est vraiment l'idée que, au contraire, on soit vraiment dans un cercle vertueux, quoi.
Ouais, et puis, enfin, tu sais, pour revenir à cet aspect relationnel, moi, c'est quelque chose sur lequel je vais énormément miser, moi, sur les prochains mois et je pense les prochaines années, parce que je savais que c'était important, mais aujourd'hui, je m'aperçois que c'est vraiment important. Et c'est vraiment sur cet aspect, suivre et entretenir leur relation, c'est un vrai investissement. Tu vois, il y a des investissements financiers. Et moi, je considère les relations comme des investissements. Tu vois, c'est des investissements relationnels.
Investissements relationnels, ouais,
carrément. Voilà, tu as des retours sur investissement. Alors, c'est pas uniquement de l'argent, mais ça peut être te sentir soutenu, te sentir écouté, être valorisé, être aimé. Enfin, voilà, on n'y pense pas assez. Enfin, en tout cas, on ne le conscientise pas assez. Mais
c'est surtout super important. Surtout qu'effectivement, nos sociétés ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, en gros, la famille, le village, la religion, en fait, faisaient office, tu vois, de savoir qui tu étais parmi tes semblables. Aujourd'hui, toutes ces notions du village, le village, la famille, ou voire même l'entreprise, tu vois, avec le télétravail ou la religion, tu vois, fait que on s'est un peu éloigné de ces modèles, ou en tout cas ces modèles se sont éclatés, et donc on doit retrouver effectivement ce sens, ou en tout cas cette relation. Et pour moi, les marques ont ce rôle à jouer, tu vois, et effectivement elles ont cette capacité à travers ces leaders que sont ces chefs d'entreprise ou ces entrepreneurs, parce qu'en même temps t'as pas besoin d'être Apple ou le slip français, tu vois, pour être un leader d'opinion, tu peux être un freelance, un indépendant et porter un message et porter une voix. Et tu n'as pas besoin d'être, tu vois, plein de millions, tu peux être juste tout seul et tu peux aussi créer des choses sans forcément être une entreprise d'ailleurs. Et par contre, il y a effectivement moi que je trouve hyper intéressant, c'est cet impact que tu peux avoir, tu vois, sur la vie des gens. Je prends un exemple, c'est tu vois, une cliente avec juste une question, tu vois, de la visualisation à 10 ans, en lui posant la question, puisqu'elle me disait dans son descriptif qu'elle allait servir un café Nespresso à ses clients dans 10 ans, et je lui dis, est-ce que tu crois que dans 10 ans, la capsule Nespresso existera toujours? Est-ce que tu crois que la capsule Nespresso, pour l'environnement, c'est... Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, elle a complètement fait évoluer son projet, qui était dans le tourisme, et d'aller vers du slow tourisme. Et tu vois, de se dire, bah, en fait, ouais, je suis écolo dans l'âme, et donc j'ai peut-être envie aussi de distiller qui je suis dans mon entreprise, et donc d'être vraiment dans la relation avec des gens, peut-être travailler avec moins de monde, mais travailler avec des gens de meilleure qualité, en tout cas d'aller vers, tu vois, du prendre du temps. Et tu vois, tout ça juste avec une question. Donc, on a tous cette capacité là d'emmener des gens derrière nous, en tout cas d'initier ce mouvement et de travailler sur l'impact. Et dans le bouquin, j'évoque aussi le questionnement nécessaire, voire obligatoire, de se poser la question de ce que je fais là, tu vois, quel impact ça a ? Je fais ce podcast, quel impact ça a ? Je fais ce livre, quel impact ça a ? Je monte cette société, je choisis tel fournisseur, je fais fabriquer mon livre en Chine, par exemple, quel impact ça a sur moi, sur mes clients, sur l'environnement, sur la société, sur l'économie, etc. Et si, en fait, on était un peu plus en réflexion sur l'impact aussi, peut-être qu'on prendrait d'autres décisions, peut-être qu'on agirait de manière un peu différente.
Oui, mais les questions, tu vois, tu partages qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tout simplement, qu'est-ce que je veux, quel impact j'ai envie d'avoir. Pour moi, ça fait partie des repères que nous sommes obligés de recréer, comme tu l'as dit très bien.
Ouais.
C'est qu'avant, donc, il y avait la famille, le couple, l'entreprise, l'église, qui étaient des repères dans lesquels sur lesquels tu pouvais t'appuyer. Pour même l'État, tu vois, même la nation, tu vois, était un repère. Mais aujourd'hui, ces repères sont détruits. Alors, les causes, on peut en discuter pendant des heures, mais c'est détruit. Et de toute façon, plus le Covid fait que y a plein de choses qui ont été réduites à néant et qui ont été détruites. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix que de créer de nouveaux repères, tes propres repères.
Ouais.
Si tu ne crées pas tes propres repères, en fait, tu auras du mal à te positionner. Parce que si tu peux pas te positionner, tu auras du mal à avoir une vision, en fait, pour ton avenir. Donc, c'est super important, en fait, au départ. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert avec le podcast et avec l'écriture de livres. C'est qu'en fait, le positionnement, tu vois, c'est pas uniquement qu'en marketing, tu vois. J'ai compris un truc, c'est que...
Exactement.
Le positionnement, c'est pas uniquement que dans le marketing. Si tu te positionnes, c'est également... C'est un impact dans ta vie de tous les jours. C'est au niveau social, au niveau de ta famille. Et puis, même si on montait très loin d'un point de vue spirituel, mais sans aller dans les...
Ouais, tout à fait.
Mais te positionner a un impact, on peut même dire dans l'univers, tu vois. C'est le fait de te positionner, en fait, c'est super important. Hein,
complètement. Parce
que, tu sais, j'aime bien prendre cet exemple de Stéphane Plaza, tu vois, quand il dit « Ah, mais moi, ce que le client, il cherche à chaque fois, c'est... Il y a une règle numéro un en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pourquoi ? Parce que le client qui va investir, tu vois, dans une maison, il va pouvoir se projeter. Il va pouvoir se projeter, tu vois, dans son quotidien, par rapport à son travail, par rapport à sa vie de famille. Pourquoi ? Parce que l'emplacement permet de se projeter. Donc, moi, je fais vraiment ce rapprochement, tu vois, d'emplacement, de position.
Ouais, ouais.
Et donc, comme, il n'y a plus de repères, si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as plus de repères, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de les créer toi-même.
Ouais, exactement. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur l'écoute, l'attention vers l'autre, fait qu'effectivement, on recrée, tu vois, ces fameuses relations qui nous permettent aussi, parce que finalement, l'autre est aussi un miroir, hein, tu vois, quand tu dis à l'autre, ouais, t'es pas organisé, en fait, c'est à toi que tu reproches de pas être organisé, donc c'est aussi... Et il y a un truc, alors je sais plus si j'en parle dans le livre, puisque tu parles de spiritualité, ou tu parles aussi de trouver sa place, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle l'overview effect, tu vois, que les astronautes, les spationautes ont, c'est que quand ils partent de la planète Terre, ils voient la planète dans son ensemble et ils se disent, putain, en fait, on est peu de choses, quoi. Et finalement, c'est aussi en se posant ce type de questions où tu vas décider d'agir, tu vois. Et c'est là où, en fait, quand ils rentrent, ils se disent, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Donc, l'overview effect, il est hyper important. Et en tout cas, moi, c'est mon job au quotidien, c'est de permettre à mes clients d'être sur cet overview effect. C'est de leur permettre un recul nécessaire. Et souvent, tu vois, c'est aussi compliqué. Hier, je parlais avec des amis, tu vois, sur le travail d'un thérapeute aussi, tu vois. C'est aussi d'avoir ce recul sur toi-même. Parce que là, pour le coup, on a quand même plein de... Enfin, tu vois, il y a quand tu commences à discuter avec les gens, il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu tendus ou qui, tu vois, le quotidien a été bouleversé. Et souvent, en fait, on se trouve un petit peu en marge et on se trouve en plus, le fait d'être en marge, de se dire qu'on est en marge, on se sent encore plus en marge. Et il faut aussi remettre les choses au clair. C'est, attention, déjà, ce que tu as vécu, c'est hyper important. Enfin, c'est tu l'as vécu. Il n'y a pas de lui, c'est plus important, ou lui, c'est plus grave, ou ceci, cela. C'est toi qui tu es parmi cet écosystème, quoi. Et donc, aussi de se remettre, tu vois, quand on parlait de confiance tout à l'heure, c'est aussi, je me remets aussi au centre de l'équation. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, parce qu'on a souvent tendance un peu à se laisser embarquer par le quotidien, par la pression des trucs, etc. Tu vois, un peu comme tout à l'heure quand on a commencé notre discussion, j'étais speed parce qu'il y a un truc qui fonctionnait pas et j'étais pas là, tu vois, j'étais pas présent.
Les repères, c'est vraiment ça, c'est ces repères et je crois, ouais, mais c'est très juste aussi ce que tu dis, c'est que les relations que l'on entretient, qu'on décide de choisir et d'entretenir, sont aussi les futurs repères de demain. Donc, c'est très vrai aussi. Donc, même les relations avec tes clients, ce sont aussi des repères que tu construis. Donc,
Carrément. Ouais. Mm. Bah, je vraiment, tu vois, c'est aussi typiquement pour. Tu parles de ça, et sur le Covid, tu vois, quand c'est arrivé en mars. Moi, j'étais complètement. J'ai pas de télé à la maison, je suis pas trop les médias. Et sauf que là, il fallait que je sache ce qui se passait, parce que moi, j'aime bien comprendre. Donc, tu vois, je veux savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne, c'est quoi les conséquences. Enfin, tu vois, j'ai vraiment cette vision globale, et donc j'ai besoin de comprendre. Donc, j'ai commencé à suivre les médias et je suis devenu complètement zinzin, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, j'ai coupé les médias et je me suis dit, sur quoi j'ai une emprise, sur quoi je peux faire quelque chose. Je suis pas politique, je suis pas médecin, je suis pas décideur, je vais pas trouver de vaccin. Donc en fait, le seul truc sur lequel je peux faire, c'est effectivement qu'est-ce que moi je décide d'être ou de faire pendant ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et en fait, je me suis dit, la meilleure manière d'aider les gens, c'est ce que je fais au quotidien, c'est d'aider des entrepreneurs à faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Et donc, j'ai accompagné des gens, tu vois, gratuitement, ou en tout cas, j'ai prolongé aussi les accompagnements de mes clients jusqu'à la fin du déconfinement. Et là, en fait, mon job avait du sens à nouveau. Alors que finalement, tu vois, une fraction de seconde avant, ça n'en avait plus parce que derrière, ça avait un peu disparu. Donc, c'est aussi de se replacer, soit en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres, parce que finalement c'est un peu ça, tu vois, on est ouais, comme je le disais, des animaux sociaux, donc on a besoin de l'autre, tu vois, pour exister, donc on a forcément besoin d'apporter quelque chose pour pouvoir aller retrouver quelque chose en échange, quoi, la relation.
Totalement. Écoute Pierre, j'ai envie de terminer cette interview, et donc je vais terminer cette interview avec la dernière question, qui sera exactement la même que celle que je t'ai posée la dernière fois. Mon cher Pierre, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui?
Waouh, je me souvenais plus de cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? En fait, on vient d'en parler, mais moi, ce que j'ai envie de créer, c'est une communauté. Alors, on a dit qu'on n'utilisait pas le mot communauté, mais en fait, c'est de créer une tribu. Donc, il y a un Discord que j'ai lancé il y a quelques temps et qui va aussi permettre de recevoir. Donc là, un Discord, c'est un logiciel qui permet d'échanger, de discuter, puisqu'en fait, la communauté n'existe que s'il y a un lieu pour lequel les gens échangent sans toi. Et donc là, c'est effectivement de trouver cette tribu et de faire en sorte que, parce que le métier d'entrepreneur, on est souvent seul, et l'idée, c'est aussi de casser cette solitude et de faire en sorte qu'on puisse, tu vois, s'appuyer sur l'expérience des autres. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai appris. Moi, pendant 3 ans, j'étais un entrepreneur seul en pensant que j'étais le seul à trouver les solutions. Dès l'instant où je me suis ouvert vers les autres, en fait, ça a été beaucoup plus simple et tout s'est accéléré. Donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte de plus trouver des entrepreneurs solitaires ou qui se mettent un peu seuls parce qu'ils pensent qu'eux, et faire en sorte de trouver un écosystème, un lieu, tu vois, qui serait la suite logique du livre, qui suit la suite logique aussi des coachings, des articles, de ce que je peux partager à travers mes contenus, et de faire en sorte qu'ils puissent trouver un endroit où ils peuvent échanger, discuter, que ce soit en ligne ou en physique d'ailleurs, tu vois. C'est aussi ces événements qu'on peut créer avec des lives, avec des événements à Valence, mais en même temps ou ailleurs, tu vois, là où je suis invité, je viens avec grand plaisir, tu vois, pour échanger, discuter et créer des connexions, ce que j'ai finalement fait souvent, mais là l'idée, c'est de le créer avec un vrai système, voilà.
Eh bien, top,
merci pour ta question.
Ben, merci à toi, merci d'avoir accepté une nouvelle fois de passer dans le podcast. Hein, donc,
Avec plaisir, ouais. C'était déjà chouette la première fois, c'était un peu plus rock'n'roll, mais là, c'est vrai que tu as l'expérience de ces épisodes, et puis moi, je suis aussi, j'en ai peut-être écouté davantage, ou j'en ai fait davantage, ou effectivement, c'est peut-être, enfin, j'espère pour tes auditeurs que c'était un peu plus structuré et que ça leur a donné envie de s'intéresser au sujet, de s'intéresser à la marque et de s'intéresser à eux-mêmes, tu vois, de voilà.
Grave, grave, grave. Donc, je mettrai les liens de toute façon pour retrouver Monsieur Pierre Dron. Donc, je mettrai ton site, je mettrai tout ce qu'il faut juste en dessous de ma description. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, le podcast, donc tu peux le retrouver n'importe où, donc sur Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou même des plateformes improbables. Donc, même moi, j'ignorais le nom, tu vois, jusqu'à il y a pas longtemps. Castbox, tu vois, donc ça c'est un truc que je connaissais pas, bon, voilà. Et si jamais tu écoutes cette interview sur une autre plateforme que celle dont je viens de citer et qu'il n'y a pas le lien, tu vois, pour retrouver Pierre Dron, eh ben démerde-toi pour le retrouver, merde, bordel.
Ouais, parce que Pierre Dron, c'est facile, c'est Dron d'Erwen, je suis originaire du Nord, c'est l'anagramme de Nord, donc tu vois, tu fais le Nord à l'envers, ça fait Pierre Dron, au cas où, tu vois, tu prononcerais une lettre.
Voilà, même, tu vois, même Pierre, tu vois, il est sympa avec toi, il te donne des indices pour le retrouver, quand même.
Exactement, des moyens mnémotechniques.
Pierre, encore merci.
Merci à toi.
Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te dis à plus tard. Salut.
Salut.
Et...